respect de leur comportement et bien appuyer pour une monde qui change.
Comprendre ce qui va se passer dans le cadre du changement climatique.
Fais de moi une observatrice du genre humain.
Je vais maintenant avoir les cratères à la surface des astéroïdes.
Je travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Bonjour à tous, ici Fanny, je suis en infiltration au sein du LPED pour partir à la rencontre de Cécilia Claïs, maître de conférence, qui va nous parler de son rôle d'observatrice.
Bonjour Cécilia.
Bonjour Fanny.
Alors Cécilia, en quoi votre métier fait-il de vous une observatrice ?
Je suis sociologue, donc mon métier fait de moi une observatrice du genre humain dans sa composante sociale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'individu, mais dans ses interactions avec les autres individus. Ce qui m'intéresse aussi comme sociologue, c'est de saisir les diversités au sein de nos sociétés. Diversité au sein d'une même société, du point de vue des classes sociales, du genre, mais aussi la diversité entre les différentes sociétés, les différentes cultures, le Nord, le Sud. C'est toutes ces comparaisons-là qui sont au cœur de l'observation sociologique-là.
Ok, super intéressant. Je me demandais, quel est votre projet principal en ce moment, par exemple ?
Je mène plusieurs projets de front, mais si je devais parler d'un seul d'entre eux, j'ai envie de mentionner un programme de recherche que je réalise actuellement en collaboration avec des collègues d'un autre laboratoire de Aix-Marseille Université, qui s'appelle le LIEU. Et c'est un programme de recherche qui réunit des compétences en droit, en géographie et en sociologie. Un programme qui est interdisciplinaire, et qui porte sur les politiques de gestion des littoraux dans les Antilles, et notamment liées à la difficulté de gérer des littoraux qui sont exposés à de nombreux risques environnementaux. Dans ce projet-là, moi, en tant que sociologue, ma mission a été d'observer les gestionnaires de ces territoires-là, mais aussi les habitants et les usagers. Je suis donc allée à leur rencontre, je les ai interviewés. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pour essayer de comprendre quelles étaient leurs contraintes, leurs objectifs, leurs aspirations. Et aussi, en ce qui concerne les habitants, beaucoup de difficultés liées à un territoire complexe et marqué par une histoire particulière.
D'accord, donc vous allez à la rencontre des gens donc pour essayer de mieux comprendre quelles sont leurs habitudes et donc mieux comprendre comment pouvoir sauvegarder le littoral.
Absolument. En sociologie, de façon générale, il y a deux principales façons d'observer. Une que l'on qualifie de quantitative, donc qui vise à produire des données chiffrées. C'est un travail qui est extrêmement important parce qu'il permet d'objectiver, de sortir de toute la facette subjectivité ou impression. Mais ce n'est pas un travail suffisant, car justement, quand on est face à des êtres humains, à des sociétés, la dimension subjective est centrale et il faut la comprendre et il faut la saisir. Dans le travail que j'ai réalisé dans ce programme de recherche, qui portait donc plus précisément sur la Guadeloupe, ce qui était important pour nous, c'était de comprendre vraiment le vécu et le ressenti des habitants. Parce que les gestionnaires ont du mal à comprendre pourquoi des habitants restent sur ces territoires qui sont aussi à risque. C'est des habitants qui régulièrement sont soumis à des cyclones, à des séismes, à des tempêtes. Et pourtant, ils restent sur ce territoire-là. Et donc, c'était en ça que consistait mon observation. C'était comprendre la réalité matérielle et aussi subjective de ces populations-là.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que vous avez donc une idée des réponses de pourquoi justement ces gens restent dans ces zones à risque ?
Absolument. Il y a plusieurs facteurs explicatifs. Le premier, qui est structurel, qui est lié à l'histoire de ce territoire-là. Les occupants en fait du littoral en Guadeloupe, ce sont pour beaucoup d'entre eux les descendants des esclaves qui, au moment de l'abolition, n'avaient pas d'autre solution que de se mettre sur les territoires qui étaient libres et qui étaient du coup des territoires à risque. Ça, c'est une facette historique. Toujours dans le côté historique, ensuite, quand il y a eu les crises économiques de l'industrie sucrière, ce sont là aussi les ouvriers qui avaient perdu leur emploi qui sont allés se réfugier sur ces territoires-là. Pourquoi ils restent ? Parce que, bon, ça c'est la facette historique, on pourrait essayer de changer le cours de l'histoire d'une certaine façon quand on est face à ces risques-là. Mais si ces populations restent sur ces territoires-là, c'est qu'il y a une emprise sur le reste du territoire qui fait qu'on a des volcans, qui fait qu'on a des exploitations agricoles et que de toute façon, ils n'ont pas vraiment d'autres solutions, techniquement parlant. Et en plus, ce littoral est devenu, pour eux, aussi une source de nourriture, de bien-être, malgré les risques auxquels ils sont exposés. Ils se nourrissent de la mer, ils se nourrissent du littoral, par la pêche, par les crabes, par leurs petits jardins dans lesquels ils font pousser les ignames, les bananiers. Donc ça, c'est une facette importante. Il y a une troisième facette qui, là, devient plus du culturel, et y compris avec la dimension subjective que cela enferme forcément. Il y a une chorégraphe guadeloupéenne qui a utilisé une métaphore d'une danse créole qui s'appelle le biguidi. Et cette danse, en fait, c'est une mise en déséquilibre du corps. C'est une danse qui donne l'impression que le corps va tomber. Il ne tombe jamais tout à fait. Et elle utilise cette métaphore pour parler, en fait, du rapport au risque des Guadeloupéens. Et j'ai repris ça dans mon travail parce que c'est aussi ce que j'ai vu sur le territoire. Des populations qui vont vous raconter les derniers cyclones qu'elles ont vécus et toute la peur qu'elles ont eue face à ces cyclones. Mais qui vous expliquent comment aussi, tout de suite, elles se sont redressées, elles ont réparé, elles ont nettoyé. Et qui partagent à la fois peur et fierté d'avoir traversé ces événements-là, en fait.
Oui, d'accord, effectivement, c'est assez compliqué. J'aimerais savoir également comment est-ce que vous en êtes arrivé à exercer ce métier ? Pourquoi la sociologie ? Pourquoi vouloir observer la société ?
Pourquoi vouloir observer la société ? Je pense que j'ai une histoire personnelle qui a fait que j'ai toujours été en décalage par rapport au milieu dans lequel je gravitais. Par exemple, j'ai été scolarisée dans une école religieuse, alors que j'avais un père athée. Et ça, en fait, ça m'a donné d'une certaine façon, dès mon enfance, un rôle d'extériorité au milieu dans lequel j'étais, et donc d'observateur. Parce que ça, c'est un point important de l'observation, notamment en sociologie, c'est cette difficulté à être constamment à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ce que l'on observe. À l'intérieur, parce qu'il y a des dimensions des relations humaines que l'on ne peut pas voir autrement qu'en rentrant dans le groupe social. Et ça, ce sont d'ailleurs des méthodes qu'on emprunte à l'ethnologie, hein, ce qu'on appelle l'observation participante ou l'observation directe. Mais constamment, le sociologue a besoin d'avoir une posture de l'extériorité pour lui permettre de rester le plus neutre possible, de ne pas prendre parti par rapport à ce qu'il observe. C'est pas toujours facile, parce que forcément, on est un être humain avec des émotions, mais ça fait partie de notre formation et de l'enjeu de l'observation, du sociologue en particulier.
Très bien, merci. J'aimerais savoir ce que vous préférez dans votre travail.
Observer. Je préfère observer parce qu'en effet, c'est le moment où vraiment on est au cœur de son objet d'étude. Mais en même temps, il y a une autre phase du travail que j'aime beaucoup. C'est quand on a fini l'observation, qu'on rentre au bureau, qu'on met au clair ses matériaux empiriques et que l'on est donc dans cette phase de prise de recul par rapport à tout ce qu'on a vécu intensément sur le terrain, où finalement, on refroidit un peu son esprit pour le regarder avec neutralité et de façon posée et critique.
Merci. Ensuite, j'aimerais savoir si vous avez une question que vous vous posez et pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé de réponse.
Oui. Je me demande même si, inconsciemment, quand j'étais plus jeune, ce n'est pas cette question-là qui m'a amenée à ce métier, qui est un métier un peu particulier, la sociologie. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi l'être humain est à la fois un être extrêmement intelligent, créatif, et que l'histoire de nos sociétés montre qu'il met trop souvent, et là c'est un jugement de valeur que je formule, trop souvent, cette intelligence et cette créativité au service du conflit, de la violence, du pouvoir. Alors, j'ai une prof que j'avais quand j'étais étudiante à Aix qui m'a apporté une partie de la réponse. C'est une dimension un peu cynique, elle nous disait, mais l'être humain, c'est une seule lettre multipliée par trois, la lettre P, pouvoir, profit, prestige. Et oui, je souscris à ce constat-là, je l'observe à chaque fois dans mes observations, mais il y a des choses plus complexes encore pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi l'être humain a ce paradoxe-là ? Voilà.
Effectivement, très, très bonne question, je trouve également. Mmh. Pour finir, si vous deviez qualifier votre métier en un mot, lequel choisiriez-vous ?
Je peux dire plus d'un mot ?
Deux ?
Alors, je vais plagier un documentaire qui avait été fait au sujet de Pierre Bourdieu. Et c'est aussi une chose qui m'avait été rappelée au moment de la soutenance de mon habilitation à diriger les recherches par les membres de mon jury, parce qu'ils trouvaient que c'était complètement ma façon de faire de la sociologie. La sociologie est un sport de combat. Donc, les mots-clés, c'est sport de combat. Alors, pourquoi sport et pourquoi combat ? Parce que le sociologue, dans son observation, regarde la société de façon complètement différente. On ne connaît pas mieux la société que les membres de la société. On la connaît différemment. Et cette différence est potentiellement subversive. voir le monde autrement, c'est aussi avoir cette capacité à dire qu'il pourrait être autre. Et c'est ça, le sport de combat. C'est être à contre-courant.
Très bien, bon, j'autorise sport de combat, il n'y a pas de souci. Et ben, merci Cécilia en tout cas pour cette interview, pour vos réponses.
Merci Fanny.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau podcast.